Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on retrouve les menstruels avec lecture d'été pour ce mois d'octobre. Les menstruels, c'est un collectif de correspondance à voix multiples, des missives de femmes éparpillées en France et ailleurs. Tous les deux mois, un thème est choisi pour composer les échanges. Tous les deux mois, on vous diffuse un épisode sur Canal B.
Est-ce que tu veux enregistrer?
Par contre, j'avais un cadeau pour mes premières règles de ma mère. J'avais fait un soin élastique.
Tu te rends compte que tu viens de lancer le générique?
J'écris les yeux fermés.
J'écris les yeux fermés.
Pas besoin des lignes.
Et je sens le froid et les ombres qui m'entourent.
Ceux qui sont partis.
Dans un rêve, tout se mélangeait.
Son rythme ne faiblit pas.
Phrase quelconque, pensée quelconque.
Perdant nos sommeils et nos fourmis.
À se donner le tournis.
Elle est là.
Faire renaître un courant de traverse.
Nous rappelle à la vie.
Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans le lit.
Les menstruels. Correspondance éclatée à X voix.
Tic, tic.
Il pleut. Vous allez entendre différents extraits. Je vous invite à lâcher la compréhension. Saisissez ce que vous pouvez. Et pour le reste, vous y reviendrez. Il y a... Butler, glissant, j'espère ne pas trop avoir écorché leurs mots. J'espère aussi que vous aurez envie d'aller découvrir leurs œuvres immenses. On est de l'autre côté de l'Atlantique. Bonne écoute. Il. Il se souvenait d'une grande partie de son séjour dans le ventre. C'était là qu'il avait commencé à prendre conscience des sons et des goûts. Ceci ne signifiait rien pour lui, mais il s'en souvenait. Quand il se répétait, il le remarquait. Quand quelque chose l'avait touché, il avait su qu'il s'agissait d'une nouvelle chose, d'une nouvelle expérience. Le contact l'avait d'abord surpris, puis réconforté. Il avait pénétré sa chair. Sans lui faire de mal, il l'avait calmé. Quand le contact avait cessé, il s'était senti démuni, seul, pour la première fois. Quand il avait reparu, il avait été content. Encore une nouvelle sensation. Après avoir subi plusieurs de ses retraits et réapparitions, il avait appris l'anticipation. Il n'avait découvert la douleur qu'au moment de naître. Il pouvait sentir et goûter les changements qui se passaient autour de lui. La lente rotation de son corps, puis plus tard, la soudaine poussée vers l'avant. La compression de sa tête, puis, peu à peu, le long de son corps. Il éprouvait une sorte de douleur sourde, lointaine. Pourtant, il n'avait pas peur. Les changements allaient de soi. Il était temps. Son corps était prêt. Il fut propulsé par des spasmes réguliers, rassuré de temps à autre par le contact de son compagnon si familier. Il y eut de la lumière. Sa vue ne fut d'abord que choc et douleur explosif. Il ne pouvait se soustraire à la lumière. Elle se fit plus vive et plus douloureuse, atteignant son apogée lorsque la compression prit fin. Aucune partie de son corps n'échappait à l'éclat net et cru. Par la suite, il s'en souviendrait comme d'une chaleur, une brûlure. Elle se rafraîchit brusquement. La lumière s'affaiblit. Il pouvait encore voir. Mais ça ne lui faisait plus mal. Son corps fut frotté avec douceur, tandis qu'il restait submergé dans quelque chose de doux et de réconfortant. Il n'aimait pas le frottement, qui lui donnait l'impression que la lumière tressautait et disparaissait avant de redevenir tout à coup visible. Mais c'était la présence familière qui le touchait, le tenait. Elle restait avec lui et l'aidait à endurer sans crainte la friction. Il fut enveloppé dans une chose qui recouvrait entièrement son corps, sauf son visage. Il n'aimait pas sentir ce poids sur lui, mais cela empêchait la lumière de passer et ne lui faisait pas mal. Quelque chose toucha le côté de son visage et il se tourna, la bouche ouverte pour le prendre. Son corps savait quoi faire. Il suça et fut récompensé par de la nourriture et par le goût d'une peau qui lui était aussi familière que la sienne. Pendant un moment, il crut qu'il s'agissait de la sienne. Elle avait toujours été auprès de lui. Cette formulation agit dans ton lieu, pense avec le monde, détail et totalité, qui n'annonce pas une obligation bifide et préfigurée, mais un proliféré sans limite, est aujourd'hui généralisée. Vous la retrouvez sur les murs de verre des plus grandes cités, ou sur les traces des villages les plus abandonnés, avec cette remarquable injonction de penser non pas dans le monde, ce qui aurait pu réinventer l'idée de la conquête et de la domination, mais de penser avec le monde, d'où toutes sortes de relations et d'équivalents, de différents. Le lieu est incontournable. Le poète rejaillit d'un tel éclat, et il se défend en même temps contre les aveuglements qui en grandissent parfois. D'abord, parce que nul ne vit en suspension ou en dilution dans l'air, mais aussi parce que je ne peux jamais faire le tour de mon lieu, le contenir, ni le contourner, précisément, c'est-à-dire l'enfermer. Les lieux se répètent de l'un à l'autre. Il n'y a pas de limite à la relation. Quand tu trouves le mot sans limite et fini, c'est en ton lieu. Tu tombes fou de le crier. L'imaginaire de mon lieu est relié à la réalité imaginable des lieux du monde. Et tout inversement. Pas un paysage qui ne soit obscur, sous ses plaisantes transparences, quand vous lui parlez infiniment. Ah, j'ai touché cet arbre du voyageur que j'avais transplanté en l'autre saison du carême, sa ramure balayée par le cyclone Dean. Je lui parle doucement. Dans l'éclair d'une semaine, il a poussé de nouvelles feuilles vert pâle. Je ne lui commande pas. Il m'emprunte et me donne. C'est en face du rocher du diamant. Vous avez pu entendre au début le magnifique roman L'Initiation d'Octavia Butler, traduit de l'anglais par Jessica Shapiro. C'est le deuxième tome de sa trilogie. Ensuite, plusieurs extraits de La philosophie de la relation, écrit par Édouard Glissant.
Alors, coucou du Cap-Vert. Je vais lire un extrait de L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Donc, c'est le tout début, la première page. J'avais quitté Genève depuis 3 jours et cheminé à toute petite allure. Quand à Zagreb, poste restante, je trouvais cette lettre de Thierry. Travnik, Bosnie, le 4 juillet. Ce matin, soleil éclatant, chaleur. Je suis montée dessiner dans les collines. Marguerite, blé frais, calmes ombrages. Au retour, croisais un paysan monté sur un poney. Il en descend et me roule une cigarette qu'on fume accroupi au bord du chemin. Avec mes quelques mots de serbe, je parviens à comprendre qu'il ramène des pains chez lui qu'il a dépensé 1000 dinars pour aller trouver une fille qui a de gros bras et de gros seins, qu'il a 5 enfants et 3 vaches, qu'il faut se méfier de la foudre qui a tué 7 personnes l'an dernier. Je vais peut-être fermer la porte, à moins que vous vouliez entendre la disqueuse pendant toute ma lecture. Hop là. Voilà. Ensuite, je suis allée au marché. C'est le jour. Des sacs faits avec la peau entière d'une chèvre, des faucilles à vous donner envie d'abattre des hectares de seigle, des peaux de renard, des paprikas, des sifflets, des godasses, du fromage, des bijoux de fer blanc, des tamis de joncs encore verts auxquels des moustachus mettent la dernière main, et régnant sur tout cela, la galerie des unijambistes, des manchots, des tracomeux, des trembleurs et des béquillards. Ce soir, était boire un coup sous les acacias pour écouter les tziganes qui se surpassaient. Sur le chemin du retour, j'ai acheté une grosse pâte d'amande, rose et huileuse. L'Orient, quoi ? J'examinais la carte. C'était une petite ville dans un cirque de montagne au cœur du pays bosniaque. De là, il comptait remonter vers Belgrade, où l'association des peintres serbes l'invitait à exposer. Je devais l'y rejoindre dans les derniers jours de juillet avec le bagage et la vieille Fiat que nous avions retapé pour continuer vers la Turquie, l'Iran, l'Inde, plus loin peut-être. Nous avions 2 ans devant nous et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Au dos de l'enveloppe, il était encore écrit « Mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ». Bon début. Pour moi aussi. J'étais dans un café de la banlieue de Zagreb, pas pressé, un vin blanc siphon devant moi. Je regardais tomber le soir, se vider une usine, passer un enterrement, pieds nus, fichu noir et croix de laiton. 2 G se querellaient dans le feuillage d'un tilleul. Couvert de poussière, un piment à demi rongé dans la main droite, j'écoutais au fond de moi la journée s'effondrer joyeusement comme une falaise. Je m'étirais, enfouissant l'air par litre. Je pensais aux 9 vies proverbiales du chat. J'avais bien l'impression d'entrer dans la 2e. Alors, j'avais un autre passage, là, voilà. Donc, ça y est, il a rejoint Thierry. Route de Sungurlu. Seule une légère différence de matière et la trace des camions distinguent la route de terre de la terre brune qui l'entoure et s'étend à perte de vue. Les pieds au chaud dans les bottes, une main sur le volant, de la terre plein le regard, on entame cet immense paysage en se disant « Cette fois, le monde a changé d'échelle, c'est bien l'Asie qui commence. » Parfois, on distingue la tache beige plus pâle d'un troupeau contre le flanc d'une colline ou la fumée d'un vol d'étourneaux entre la route et le ciel vert. Le plus souvent, on ne voit rien, mais on entend « il faudrait pouvoir bruiter l'Anatolie. On entend un lent gémissement inexplicable qui part d'une note suraiguë, descend d'une quarte, remonte avec beaucoup de mal et insiste. Un son lancinant, bien fait pour traverser ces étendues couleur de cuir, triste à donner la chair de poule, et qui vous pénètre malgré le bruit rassurant du moteur. On écarquille les yeux, on se pince, mais rien. Puis on aperçoit un point noir et cette espèce de musique augmente intolérablement. Bien plus tard, on rattrape une paire de bœufs et leur conducteur qui dort la casquette sur le nez, penché sur une lourde charrette à roues pleines dont les essieux forcent et grincent à chaque tour. Et on le dépasse, sachant qu'au train où on chemine, sa maudite chanson d'âme en peine va vous poursuivre jusqu'au fond de la nuit. Quant au camion, on a affaire à leur phare une heure au moins avant de les croiser. On les perd, les retrouve, les oublie, et brusquement ils sont là pendant quelques secondes. Brusquement ils sont là, et pendant quelques secondes nous éclairons ces énormes carcasses peintes en rose ou en vert pomme, décorées de fleurs en semis, et s'éloignent en tanguant sur la terre nue comme de monstrueux bouquets. Il nous arrive aussi d'être intrigués par deux mignonnes lanternes d'or qui s'allument, s'éteignent, clignotent et semblent reculer devant nous. On pense, à cause de leur écartement, à une petite voiture de tourisme. Et quand on est dessus, c'est un hibou qui dormait au bord de la piste sur la pile d'un pont et ce lourd flocon s'enlève en criant dans le vent de la voiture. Ces charrettes à roues pleines, il paraît qu'il en fut retrouvé d'exactement semblables dans des sépultures babyloniennes. Il y aurait donc 4000 ans que leurs essieux tourmentent le silence anatolien. Voilà qui n'est pas mal, mais sur la piste qui relie Bogaskoï à Süngürlü, nous sommes tombés sur plus ancien encore. L'après-midi était avancé, le ciel clair, nous traversions une plaine absolument vide. L'air était assez transparent pour qu'on distingue un arbre qui se dressait tout seul à une trentaine de kilomètres. Et tout d'un coup, toc, 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 tac, une grêle de légers chocs clairs et irrités qui s'amplifiaient à mesure que nous avancions. Un peu semblable au craquement d'un feu de bois sec ou à ceux du métal chauffé à blanc et qui travaille. Thierry arrêta la voiture en blêmissant. J'avais eu la même crainte que lui. Nous avions dû perdre de l'huile et les pignons du différentiel se mangeaient en chauffant. Nous nous trompions car le bruit n'avait pas cessé. Il augmentait même tout près sur notre gauche. On alla voir. Derrière le talus qui borde un côté de la piste, la plaine était noire de tortues qui se livraient à leurs amours d'automne en entrechoquant leurs carapaces. Les mâles employaient la leur comme un bélier pour bousculer leur compagne et la pousser vers une pierre ou une touffe d'herbe sèche à laquelle ils l'acculaient. Ils étaient un peu plus petits que les femelles. Au moment de l'accouplement, ils se dressaient complètement pour les atteindre, tendaient le cou, ouvraient une gueule rouge vif et poussaient un cri strident. Quand nous sommes partis, de toutes les directions de la plaine, on voyait des tortues se hâter lentement vers ce rendez-vous. Le jour tombé, on ne s'entendait plus.
Tic, tic.
Peu de temps après l'explosion de la bombe, à Paris, maman est conçue. Dans un deux pièces exigu du 14e arrondissement, notre grand-père rappelle quotidiennement notre grand-mère à ce qu'on appelle encore le devoir conjugal. Une fois couché, il a pour habitude de lui demander de se tourner dans le lit, afin de faciliter l'intrusion qu'il s'apprête à commettre, fort d'avoir la loi et les normes sociales pour lui. Nulle explosion nucléaire, cependant, pour figer ce moment. Mais les oreilles attentives de deux petites filles pelotonnées de l'autre côté de la paroi. Non. Non. Notre grand-mère commence toujours par résister. Que produit une enfance rythmée par les échos réguliers du viol de sa propre mère? Elle dessinait. À l'école, elle griffonnait en cachette les portraits de ses amis pendant la classe. Peu avant le brevet, son professeur de dessin est venu trouver ses parents pour les convaincre de la laisser s'engager dans une carrière artistique. « Elle est douée, très douée », insiste-t-il. mais son père est catégorique. Artiste, ça n'est un métier pour personne, encore moins pour une femme. Elle est devenue secrétaire. Lorsque la créativité est bridée, elle s'exprime par l'utérus, m'a dit un jour une femme qu'en d'autres temps on aurait brûlée vive. Le 20 juin 1946, une sage-femme de la maternité de la rue s'arrête, aide maman à venir au monde. Elle la lave, la lange, puis la ramène à notre grand-mère. À leur arrivée dans la chambre, celle-ci se tourne vers le mur, pour ne pas voir l'enfant que la vie vient d'ajouter à sa longue liste de tâches quotidiennes et dont, surtout, elle ne veut pas. De mauvaise grâce, elle la ramène à la maison et l'élève, aux côtés des deux autres petites filles qui alourdissent déjà son existence. Et puis, par esprit de résistance peut-être, parce que dire la vérité est parfois tout ce qu'il nous reste, dès que sa fille est en âge de comprendre, elle lui raconte l'histoire, toute l'histoire. Et elle conclut, « Si encore tu avais été un garçon. » Vagin chaud, chair tendre et enflammée, te l'a-t-elle dit ? Un an plus tôt, alors que la guerre se terminait, mamie s'est trouvée enceinte. Vagin chaud, chair tendre et enflammée, te l'a-t-elle dit ? À peine un an plus tôt, alors que la guerre se terminait, mamie s'est trouvée enceinte. À la maison, elle se saisit d'une aiguille à tricoter et fouraille l'intérieur de son utérus autant qu'elle le peut. Si elle lui permet de se débarrasser du fœtus, l'opération lui coûtera un ovaire, un seulement. À l'hôpital où elle arrive percluse de douleur, on trouve son cas tellement intéressant qu'on convie une quinzaine d'internes à venir procéder à une palpation. Dans la précipitation, ou peut-être parce qu'on juge que ça n'en vaut pas la peine, on néglige de lui administrer des antidouleurs. Après la 15e intrusion, l'interne dont c'est le tour demande à notre grand-mère si elle veut qu'il s'arrête là. Elle acquiesce, à bout de force. Sourire, gorgé de sa propre aménité. Très bien, dans ce cas je reviendrai demain matin. Vagin chaud, chair douloureuse, pénétrée par des dizaines de mains étrangères, alourdie de la honte de celle qui a enfin osé se refuser à son devoir et qui en paie le prix fort. À quoi pense-t-elle, tandis que ses mains la fouraillent ? Je crois qu'elle n'est plus là. 70 ans plus tard, pour une manifestation, je collerai deux aiguilles à tricoter sur une pancarte et inscrirai en dessous. Mamie m'a tout appris. C'est d'elle que nous tenons ces anecdotes, et d'autres encore, d'elle, puis de notre mère. Mamie n'a jamais eu besoin d'expliquer pourquoi c'était ces histoires-là, et pas d'autres, qu'elle avait choisi de nous transmettre. La trame qu'elle file est une cache d'armes. Nous sommes les héritières d'une détermination farouche. Nous, les descendantes des avortements ratés, des grossesses imposées. Celle-ci est indémêlable de nos douleurs et de nos rages, transmises d'une génération à l'autre, comme on essore un torchon plein de sang, dans l'anonymat d'une cuisine plongée dans la nuit. Regarde-moi, tu me vois ? Je couds nos torchons ensemble, pour en faire un livre à ta mémoire. Quand tu es née, à l'hôpital, on a voulu convaincre maman d'accepter une césarienne. 2 ans plus tôt, notre sœur était née de cette façon, et il paraissait peu probable aux médecins que maman soit capable de te mettre au monde par voie basse, avec son vagin. Pendant le travail, la cicatrice de sa césarienne s'est déchirée, mais maman n'a pas lâché, et tu es née de la façon dont elle le désirait. Dans la foulée de ta naissance, les médecins, ton père en premier lieu, ont considéré qu'avoir un autre enfant serait désormais trop dangereux pour elle. Ils ont décidé de lui ligaturer les trompes. L'opération a été faite immédiatement, alors que maman était encore assommée par l'accouchement. Ton père était un médecin reconnu, fervent défenseur des droits reproductifs. Il avait voyagé dans le monde entier pour soutenir sa cause et impulser la création de centres permettant aux femmes de choisir. Mais selon sa conception, ce choix ne pouvait aller que dans un sens. Et celui que faisait sa femme, garder cet enfant dont il n'avait pas voulu, mettre sa santé en jeu pour devenir mère à nouveau, ne rentrait pas dans le périmètre de son projet politique. 12 ans plus tard, et malgré l'opération chirurgicale qui visait à l'en empêcher, maman tombait à nouveau enceinte. 2 mois. Il me plaît à penser que nous sommes aussi les fruits de petites mutineries, signe manifeste qu'il est toujours possible de déborder ceux qui pensent nous vouloir du bien. 3 ans après ta mort, un soir, je me suis trouvée seule dans mon appartement à Paris, titubant de tristesse, égarée, nue. Instinctivement, et peut-être pour vérifier que j'étais bien là, je suis allée vers le miroir. Ce que j'y ai vu m'a fait l'effet d'une déflagration. C'était moi. Et c'était moi toute seule. Tu n'étais pas là. Pourtant, face à moi, il y avait ce visage, la mâchoire carrée, plutôt masculine, le nez qui s'étire en un arrondi enfantin, et surtout, les yeux noirs, le regard franc. Le même visage que toi. Que vaut d'être sœur face à la mort ? La solitude tranchante dans laquelle tu m'as laissée est inconsolable. Tant mieux, elle est parmi ce que j'ai de plus cher. Ma fille est née au terme d'une nuit chaude de juillet. Avant l'hôpital, ses néons froids, sa hiérarchie qui met des hommes sur deux et irrités tout en haut, et des femmes exsangues, mais compatissantes tout en bas, avant la longue piqûre dans le dos et les rafales d'injonctions chapeautées d'un « Madame ». Avant tout cela donc, il y a eu 2 jours et une nuit à la maison, entourée des miennes. Mes amis proches, mes piliers, pleines de force et de vulnérabilité. Des reines, qui n'ont jamais eu d'enfants, m'aidaient tout à la célébration de celle que je m'apprêtais à mettre au monde. Pendant ces 2 jours et une nuit, mon corps s'est contracté beaucoup, longtemps, violemment. 2 jours de marche en forêt, de danse, de rire, de silence inquiet ou circonspect. 2 jours d'une lente capitulation de ma part. 2 jours bercés par les contractions incessantes, chaque déflagration m'écrasant le dos comme une enclume qui pèse toujours plus fort, qui fait toujours plus mal. 2 jours à observer mon corps rougir, gonfler, rugir. 2e nuit, j'étais toujours chez nous, plongée dans une eau brûlante, submergée par la douleur, vague après vague, après vague, après vague. J'étais sur la terrasse de la maison, recouverte pour l'occasion d'une pergola un peu bancale, elle-même coiffée d'un ensemble de draps cousus entre eux. La nuit était tranquille, scintillante, épaisse et vaste à la fois. Nous l'avons traversée ensemble, petite équipe soudée, par cette nouvelle aventure. Mon corps continuait de besogner, traînant ma fatigue toujours plus loin, mais il besognait sans s'ouvrir. J'ai fini par demander qu'on appelle maman, qui veillait dans la maison voisine. J'avais dit, crié, hurlé même, qu'elle ne mettrait pas un pied à mon accouchement. Que la dernière personne que je voulais voir dans cette épreuve, c'était elle, la mauvaise mère. Mais quand je n'ai plus trouvé en moi les ressources pour prétendre que tout allait bien, que je n'avais pas peur, que je savais que l'issue serait celle qu'elle était censée être, le besoin d'elle à mes côtés est devenu une évidence. On m'a fait répéter ma demande. Puis, dans le cœur de la nuit, c'est mon amie d'enfance, celle qui connaît maman et ses colères, moi et mon ressentiment, qui est allée la chercher. Quand elles sont revenues, tout le monde s'est retiré de la terrasse pour nous laisser toutes les deux. Maman s'est assise dans mon dos et m'a serrée contre elle, me pressant plus à chaque contraction. Et ce n'est que là, dans les bras de celle qui m'a tant blessée, de celle dont nous avons toutes les trois appris à nous défier sans relâche, c'est dans ses bras à elle que j'ai pu commencer à pleurer. Que j'ai pu avouer que je n'y croyais pas, ou plus, que ça n'allait pas arriver, ce bébé dont on disait qu'il était dans mon ventre. Que mon corps, dont on avait peut-être pensé qu'il était comme les autres, capable de cet acte immémorial qui consiste à reproduire, ne l'était finalement pas. S'ouvrir en deux pour laisser sa place à l'inconnu absolu, je n'en étais pas capable. Ça n'allait pas arriver. Maman m'a bercée. Elle m'a dit que j'allais y arriver, qu'un bébé allait arriver, un bébé qui serait ma fille et sa petite fille. Elle m'a dit que j'étais forte et aimante, que ce bébé allait hériter de cette force et accueillir cet amour. Elle me l'a répété pendant des heures, tandis que je pleurais doucement, tandis que j'expirais la douleur des vagues qui me saisissaient le corps tout entier. Mon corps s'est peu à peu ouvert, laissant la possibilité, à l'immense et minuscule inconnu, de prendre sa place dans ma vie. Mon corps s'est ouvert comme le sien s'était ouvert, pour me laisser prendre ma place, et pour te laisser prendre la tienne avant moi. Les jours précédant ta mort, maman dormait avec toi à l'hôpital. La journée, tu te montrais assurée, comme tu l'avais toujours fait. Tu vérifiais plusieurs fois, auprès des soignantes, les dates et les heures de tes soins, des opérations envisagées. Tu demandais confirmation, pour montrer que tu suivais. Malgré les tubes qui canalisaient tes flux, malgré ton corps qui n'en finissait plus de noircir et de gonfler, malgré le masque qui entravait ton visage, mais te permettait de respirer, tu étais encore là, alerte et en maîtrise. Mais la nuit, quand le bal des soignantes prenait fin et qu'il n'y avait plus que maman pour toucher ton corps déclinant et se tenir à tes côtés, tu laissais la panique te gagner. Tu allais mourir. Tu le savais. Et tu demandais à maman de ne pas laisser cela arriver. Celle qui t'a donné la vie devrait pouvoir empêcher que celle-ci te soit retirée. Mais même les mères n'ont pas ce pouvoir. Alors maman t'a bercé, comme elle le ferait des années plus tard avec moi. Maman t'a bercé vers la mort, dans cette chambre d'hôpital aux exhalaisons chimiques, dans la profondeur des nuits d'automne à Londres. Et puis, maman m'a bercé vers la vie que je m'apprêtais à délivrer, dans la chaleur d'une nuit d'été, chez nous. Notre mère, comète blessée, astre colérique, qui a toujours rendu si difficile de l'aimer, qui nous faisait porter, à toutes, la responsabilité de laver l'affront qui lui avait été fait à la naissance. Notre présence ultime. Un enfant naît, et nous lui faisons la promesse d'être toujours là, quoi qu'il soit. Maman a tenu cette promesse. La vie têtue, Juliette Rousseau.
Arrêtez ce courant de malheur! Je ne sais pas pourquoi j'ai crié, mais je devais crier pour ne pas trahir la promesse faite à mon père. Ne laisser personne lire le Coran à son enterrement. Mon père est mort le jour où il a compris qu'il n'avait plus d'histoire à me raconter. Je suis devant sa dépouille. Il est nu, au milieu de la grande pièce recouverte d'un simple linceul blanc. Allongé sur le dos, il a les mains croisées sur le sexe. Je le regarde, il a l'air tellement serein. C'est la première fois de ma vie où je le sens en paix. Je ne regrette pas sa mort. Je savais depuis longtemps qu'il allait mourir, parce qu'il m'avait tout dit. De la fenêtre ouverte, je vois les maisons de mon village. Arnoun, qu'on appelait Château de Beaufort. Les maisons bombardées fument encore. L'armée israélienne vient juste d'évacuer le sud-Liban après 20 ans d'occupation. Je vois les collines alentour. Elles sont noires de monde. Les gens sont venus de Tyr, de Sidon, de Damas, d'Alep, de Beyrouth, d'Aman assister aux funérailles de mon père. Je lui caresse le visage. Il a une peau de bébé, même pas froide. C'est le mois de janvier. Il pleut, je sens l'odeur de la pluie monter de la terre rouge du sud Liban. Je vois au loin les plaines de Galilée. Je vois là-haut la neige qui tombe lentement sur les sommets du mont Hermon. La porte de la chambre s'ouvre, des femmes en noir surgissent. Elles pleurent, elles gémissent, elles se jettent sur mon père. Elles lui embrassent le visage, elles lui embrassent les mains, elles lui embrassent les pieds avec une avidité. Je murmurai à l'oreille de mon père. « Salopard, tu n'en rates pas une. » Soudain, j'ai entendu une voix étrange qui m'a déchiré le ventre. Un cri insupportable qui m'a fendu le crâne, m'a troué la peau. Quelqu'un était en train de hurler des sourates du Coran. J'ai ouvert la porte de la pièce voisine. Elle était pleine de femmes en noir, elles pleuraient autour d'un radiocassette qui diffusait des prières. Je les ai enjambées, je les ai piétinées, je me suis emparée du radiocassette. J'en ai coupé le son. Les femmes poussaient des cris d'horreur. Ma mère, mes sœurs tentaient de me rattraper. « Arrête, tu es folle! Reviens, ce n'est pas le moment !» J'ai couru me réfugier dans la chambre de mon père. J'ai fermé à double tour la lourde porte en chêne. J'ai entendu les hommes hurler. « Espèce de folle, remets le Coran, sinon on te tue! Ouvre, salope, ouvre! On ne coupe pas la parole de Dieu! Ouvre, putain! Si tu touches au livre de Dieu, tu es morte !» De derrière la porte, je criais à mon tour. « Ce Dieu n'est pas le Dieu de mon père. Il n'a jamais eu de Dieu, mon père. Il m'a fait jurer. Ma fille, fais gaffe à ce que ces chiens ne mettent pas du Coran le jour de ma mort. Ma fille, je t'en prie, je voudrais du jazz à ma mort. Et même du hip-hop, mais surtout pas du Coran. Je veux bien lui mettre Nina Simone, Miles Davis, Férouz ou même Mireille Mathieu, mais pas de Coran. Vous m'entendez? Je vais lui passer à la place de vos prières le dernier tango à Paris. Il aimait la coupole et le beurre, papa. » Il prenait toujours du fleurier et demi-sel. Vous ne l'enterrerez pas comme ça, vous ne l'aurez pas. Je ne vous ouvrirai jamais. J'ai enlevé la cassette du Coran et j'ai mis à la place « Save Me » de Nina Simone. Les coups redoublaient contre la porte. Moi, je dansais, seul, face à mon père. Je lui parlais fort, comme si je voulais le réveiller de sa mort. « Heureux ? Tu l'as eu, ta Nina Simone, tu l'as eu, ton jazz. Je t'ai épargné le Coran, n'est-ce pas ? Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qui va me protéger contre ces monstres ? C'est toi qui me l'as appris. Méfie-toi, ma fille. Tous les hommes de ce pays sont des monstres pour les femmes. Ils sont obsédés par les apparences. Ils sont ligotés par les coutumes. Ils sont rongés par Dieu. Ils sont bouffés par leur mère. Ils sont taraudés par le fric. Ils passent leur vie à offrir sur un plateau leur cul au bon Dieu. Ils ouvrent leurs braguettes comme on arme une mitraillette. Ils lâchent leur sexe sur les femmes comme on lâche des pitbulls. Quel chien ! Tout à l'heure, une de tes ex-maîtresses a voulu t'embrasser les mains. Je lui ai conseillé de t'embrasser la bite. On ne sait jamais. Elle aurait pu te ressusciter. Elle aurait joué Jésus et toi, Lazare.
myself after the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me, anybody save me, somebody save me. Those who love always get the most. We're crying together from coast to coast, 'cause love makes me cold and hurt sad. These tears of violence are justified. I'm begging you to save me. Hey Lord, somebody save me. Makes me cold and hurt inside. These tears of violence are justified. He never said he needed me. You abused my love, so set me free. You didn't need me, you didn't even want me. Somebody help me, this man wants to tone me. Calling Kate Crusader, Green Hornet, Batman 802, anybody. I'm in so much trouble, I don't know what to do. Yeah, if you think anything about me, if you love me at all, if you love me at all, please now, please now, please now, please now, please now. I'll say, save me.
Pense aux paysans qui ensemencent la terre et qui travaillent, peut-être sans très bien le savoir, pour les générations futures, pour la suite du monde. Son blé ou son maïs, c'est déjà la pensée, la force mystérieuse de la vérité. Chaque être qui vient sur terre porte en lui une science, et sa tâche est de la faire germer sur cette terre. Pour moi, la vie est une chose sérieuse. Ça ne dure pas longtemps, la vie. 30 ans, 40 ans, 50 ans. En 50 ans, tu accomplis ta part du monde. Et même si la part du paysan se limite dans son esprit à entretenir une femme et des enfants dans la paix, il crée pour les autres. Les gens ne travaillent pas pour la postérité, ils travaillent pour vivre. Mais le devenir du monde est déjà présent dans ce travail. Cela, je l'ai compris vraiment qu'en prison. Quand j'ai vu toutes ces énergies rassemblées en un même lieu, concentrées jusqu'aux limites de l'explosion et laissées rendues improductives. Toutes ces terres en friche. Les petites gens des quartiers populaires de Rome que j'avais vus dans leur famille ou à leur travail, et qu'on avait enfermés pour pas grand-chose. Quelques larcins, parce qu'ils n'avaient plus de boulot. Je les ai vus tourner en rond pendant des heures, ou bien crier, debout, au milieu de la cour, sans d'autre raison qu'une force à faire jaillir. En Italie, les prisons sont pleines aussi parce qu'il n'y a pas assez de boulot pour le fils du Sud qui monte chaque année chercher fortune dans le Nord. Les prisons aident à résorber le chômage et le sous-développement du Mezzogiorno. 20% au moins des détenus sont des gens de passage, des migrants qui se promènent de prison en prison, parce qu'il n'y a que ça à faire. Comme ils ne peuvent pas quitter le territoire parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour immigrer vraiment et qu'ils n'ont pas de copains installés en France, en Suisse ou en Allemagne, ils se font chier et de temps en temps la fièvre les prend. Ils font une banque, un portefeuille, la caisse d'une épicerie. Et tout de suite, ils sont épinglés. La logique du système les oblige d'abord à quitter leur sud, puis à chômer, à voler et à échouer en tôle. L'avantage économique est double. Diminuer le nombre des prisons et alimenter l'industrie carcérale, faire tourner les fournisseurs des prisons, l'appareil judiciaire et policier. et l'avantage politique est de justifier la mobilisation permanente d'une puissante police, le gonflement de ses effectifs, le perfectionnement de son équipement répressif, finalement de justifier la mise en place d'une force susceptible de bloquer tout mouvement révolutionnaire. Balthazar n'aimait pas la police. « Je veux des pistolets pour tuer la police. » L'avocat essayait de le rassurer. Le commissaire s'en est mêlé. Balthazar ne voulait pas partir avec l'avocat. Voilà ce qu'on fait de mon fils. On lui ment, on lui enseigne la haine et la colère. À la fois on lui montre son père comme coupable, et à la fois on lui dit que ce n'est rien. Qu'il le reverra bientôt. Ces sornettes que les flics se croient obligés de débiter quand ils ont devant eux un mystère qui les dépasse. Un enfant. Que leur ont appris leurs mères? Les mères italiennes sont admirables. Les louves de Rome. Des dents et des ongles, elles défendent l'homme et les enfants. La famille. L'homme. Elles savent bien que de temps en temps, il va baiser une putain. Mais il revient. Sinon, elles déchirent ce qu'elles défendaient. Avec la même énergie. Elles deviennent folles. Il y a dans les prisons italiennes des centaines de Médées. Une qui a tué ses trois gosses parce que son mari l'a quittée pour une autre. Une fille qui, à son mec, promettait toujours le mariage. Et le mariage ne venait jamais. Jusqu'au jour où elle s'est décidée à le tuer. Comme ça. Clac. Elle a tué en même temps les deux enfants qu'elle avait avec lui. Ces étoiles filantes ne connaissent pas le compromis. Elles sont entières. Si leur rêve s'effondre, elles brûlent tout. Les femmes peuvent brûler. Elles sont fertiles. La terre peut être couverte de cendres. Femme, femme, terre sacrée de ma naissance. Les hommes ne sont que polémiques. Balthazar a été parfait. Il y avait maintenant au moins 15 flics autour de lui, à parlementer, faire assaut de sourire. Mais si doux qu'il veuille paraître, le ton n'y était pas. Balthazar répétait. Têtu, je veux des pistolets pour tuer la police. Je veux des pistolets pour tuer la police. Je l'ai embrassé. Va, mon fils.
Et ça reste entre nous. Le truc de garder le silence, ça n'a rien d'aussi efficace qu'on veut bien le dire. Tu te crois malin à fermer ta grande gueule et à attendre ton avocat. Tu crois que tout va s'arranger en douceur. Pour jouer à ce genre de truc, faut être un super croque.
Ouais. Tout ça, c'est la faute des flics. Tu sais ce qui peut
arriver. Ouais.
Un interrogatoire n'est pas un échange harmonieux entre deux individus. C'est un conflit. Et dans ce conflit, notre ignorance fait leur force. Ignorance sur le sens du travail de la police. Ignorance sur les techniques de manipulation utilisées, ignorance sur le cadre juridique, et enfin, ignorance sur nos moyens de défense. En réponse à ce constat, ce livre est pensé comme un outil d'autodéfense contre la pratique policière de l'interrogatoire.
Bonjour, police nationale. Vous savez qu'il est interdit d'enregistrer du son par ici?
Mais comment ça?
Bon, on va vous expliquer tout cela au poste. Vous êtes en état d'arrestation, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de garder le silence. Veuillez me suivre, s'il vous plaît.
Bah, c'est quand même fou, cette histoire.
Tout va alors très vite dans ta tête. Ce qu'il faut savoir. Premièrement, la question, réellement débattue lors d'un procès, n'est pas de savoir si tu es coupable ou innocent, mais de savoir s'il y a assez d'éléments ou non pour te condamner. Une nouvelle fois, cela montre l'importance de cette équation. Moins ton dossier d'enquête est rempli d'éléments, y compris de tes propres déclarations, et mieux tu te porteras lors du procès. Deuxième chose, le travail de la police se limite à récolter les informations et à les présenter sous forme d'hypothèses. Ce point est important, car il met en lumière la fausse croyance selon laquelle policiers et policières jugent de ta culpabilité ou de ton innocence, et qu'il pourrait être bénéfique d'essayer de les convaincre de ton innocence. Ce besoin de s'expliquer et de se justifier face à la police est habilement exploité pour te soutirer des informations, finalement utilisables contre toi ou d'autres personnes.
Pensons dès le départ si c'est possible ou pas de l'amener à des aveux, ou à faire évoluer le dossier en tout cas. Mais sans avoir une idée préconçue, hein. C'est selon les éléments qu'on a et la sensibilité qu'on a. Après, c'est pas de la manipulation, hein, mais on va essayer de l'amener vers la direction qu'on voudrait.
Définir un profil. Lors d'un interrogatoire, identifier tes sensibilités et ton système de valeurs représente un enjeu majeur pour la police. Cela va leur permettre de les utiliser comme levier pour influencer tes émotions et tes sentiments et choisir la stratégie d'interrogatoire à mener. Toutes ces stratégies visent à te déstabiliser, t'entraîner sans en avoir l'air sur un terrain semé d'embûches. Ils et elles chercheront à t'attendrir, te culpabiliser, t'inquiéter, te tromper, te faire peur ou te pousser à bout. Puis, une fois identifiés, ils et elles exploiteront tes failles pour les utiliser contre toi. C'est humain. Si tu refuses d'entendre tes peurs et tes craintes, tes émotions prendront un chemin détourné pour se manifester et surgir sous forme d'une colère intense, d'un comportement irrationnel, de terribles angoisses,
bonjour,
ou même de crises de larmes.
Bonjour.
Alors comment faire ? Eh bien, il est important de montrer à soi-même et aux autres qu'on accueille sereinement ses propres vulnérabilités. C'est le premier pas pour pouvoir les affronter avec confiance et à terme, les surpasser.
Bon, eh bien, nous allons pouvoir procéder. Si vous me permettez, je vais simplement me saisir de ces quelques documents. Très bien, madame, vous pourriez me dire où est-ce que vous vous trouviez hier vers 20h ?
Alors, oui, bien sûr. Hier, vers 20h, j'étais chez moi. J'ai passé la soirée à lire.
D'accord. Et vous avez l'habitude d'enregistrer du son dans l'espace public ou même chez vous ?
Non, pas vraiment. Je n'ai jamais fait ça, en réalité.
Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez nous renseigner sur cet enregistreur que nous avons trouvé dans votre sac à dos ? Cet enregistreur vous appartient bien.
Alors, quelle défense adopter lors d'un interrogatoire ?
Nous avons également trouvé une carte SD dans cet enregistreur.
Alors, nous avons vu que trois types de réponses sont possibles face à une accusation : la collaboration, le mensonge ou le silence.
Vous n'avez pas de déclaration à faire à ce sujet ?
Voici les fausses croyances qui poussent à la collaboration. Bah, je suis obligée de répondre aux questions de la police, non ?
Oui, bon, alors ça, attention, hein, parce qu'une réponse entraîne toujours une nouvelle question.
Si je parle pas, j'aurai l'air louche.
Avoir l'air suspect n'est pas une preuve légale, ni même un élément de preuve.
Après tout, j'ai rien à me reprocher.
Oui, mais en fait, mais pourquoi es-tu là ? Et les autres, et tes amis ?
Et puis, les flics arrêteront de me mettre la pression si je parle au moins un peu.
Eh bien, cette pensée est compréhensible, mais on l'a vu, la liste des moyens de pression que nous, policiers, avons à disposition est longue, surtout en situation de détention. Et le chantage, il fait partie de notre arsenal de manipulation. Plus vite tu nous dirais tout, et plus vite tu rentreras chez toi. Enfin, dans les faits, c'est pourtant l'inverse qui est vrai. Si tu commences à parler, tu donnes le signal d'une ouverture dans laquelle on va se jeter à corps perdu. Jusqu'à qu'on soit satisfait du résultat. C'est aussi nous montrer que les moyens de pression dont on dispose fonctionnent sur toi. Alors pourquoi arrêter si cela montre des résultats positifs ?
Bon bah alors,
plutôt que le silence, c'est mentir qui va me tirer d'affaire.
Tu sais, on est entraîné à détecter les mensonges. Ou même les questions qui mettent dans l'embarras. Une de nos stratégies de flic, ça consiste justement à te pousser à dire le plus d'affirmations mensongères et à te couler par la suite en te confrontant à la preuve de ton mensonge.
La collaboration et le mensonge étant risqués, le silence est de loin la stratégie de défense la plus efficace et la moins dangereuse. L'ensemble des stratégies et techniques de la police ont un point commun. Pour atteindre leurs objectifs, la participation de la personne interrogée est nécessaire, voire essentielle. Ne l'oublie pas et ne te laisse pas parasiter. Cet élément constitue la meilleure défense que tu possèdes. Si tu refuses cette collaboration, tu détruis les armes que la police pourrait utiliser contre toi. Ne leur offrir rien d'autre qu'un impassible « je ne souhaite pas faire de déclaration » signifie ne pas leur offrir d'emprise sur toi. D'autre part, garder le silence évite de nourrir le dossier d'enquête avec tes déclarations vraies ou fausses. On ne met personne en danger, ni autrui, ni soi-même. Pour tenir au mieux cet axe de défense, le plus simple est d'utiliser la stratégie du disque rayé. Cela consiste à répéter avec un volume toujours identique ta décision de ne pas faire de déclaration, sans te justifier davantage, avec, à chaque fois, pratiquement les mêmes termes. Cela permet de marquer ta fermeté en restant toujours dans le même état émotionnel.
Bon, madame, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que vous vous trouviez hier, vers 20h?
Je n'ai rien à déclarer.
Et est-ce que vous avez l'habitude d'enregistrer du son dans l'espace public ou bien chez vous?
Je n'ai rien à déclarer.
Peut-être vous pourriez nous renseigner à propos de cet enregistreur que nous avons trouvé dans votre sac à dos?
Je n'ai rien à déclarer.
Très bien, vous n'avez rien à déclarer donc. Bon, sachez que ce silence peut paraître suspect à nos yeux.
Plus tôt tu exprimes pour la première fois ta volonté de garder le silence, plus il sera facile de s'y tenir. Bien entendu, les inspecteurs et les inspectrices vont te pousser à changer de stratégie de défense, notamment en te culpabilisant de ne pas répondre ou en essayant de te faire croire que ton silence donne une image suspecte de toi et que cela jouera en ta défaveur. Peu importe. Après l'interrogatoire, si l'affaire est transmise à un ou une juge, tu auras l'occasion de prendre connaissance du dossier d'enquête, et aussi des éléments que la police a rassemblés contre toi. Tu pourras également t'entretenir avec un ou une avocate et te faire conseiller sur la meilleure manière de te protéger. Si tu choisis de faire des déclarations lors du procès, tu pourras les faire en connaissance de cause, avec un risque nettement plus petit de te mettre dans l'embarras. En parallèle du travail de réappropriation de ton pouvoir de décision, il fait aussi sens d'apprendre à lâcher prise. À partir de ton arrestation, tu ne contrôles plus ce qui se passe et tu n'as plus le moyen d'influencer les événements. Quand va s'arrêter la détention, le nombre d'interrogatoires que tu vas subir, les manipulations des policiers et policières, ce qui se passe dehors, que tu t'agites ou que tu restes calme, les événements vont suivre leur cours. Toutefois, si tu t'agites, notamment en tentant de te justifier ou de livrer des informations pour t'en sortir, tu risques de commettre des erreurs et d'aggraver la situation. Laisse couler le temps, les pressions et le stress sur toi. C'est un sale moment à vivre, mais il finira par passer. Et ce qui importe, c'est d'y survivre le mieux possible. Voici une technique de lâcher prise, facilement utilisable en détention ou interrogatoire. Si tu remarques que tu n'arrives plus à maintenir tes pensées anxiogènes à distance, arrête. Arrête tout.
tout ce que tu es en train de faire. Prends une grande inspiration et bloque-la. Reste en apnée en énumérant à voix haute et le plus rapidement possible tous les objets qui t'entourent. Micro, câble.
Micro, câble,
pied de micro,
bonnette,
pied de micro, câble, micro, enregistreur, bonnette, pile, ordinateur, texte, tasse, café,
papier, bouteille d'eau, tasse de café, cuillère, gourde d'eau.
Tu verras à quel point c'est efficace pour chasser des idées noires et te débarrasser de tous ces parasites.
Nous rappelle à la vie.
Il y avait un frelon rouge et une assiette rouge aussi dans le lit.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Tic, tic.
Gymnastique sonore se termine ici. Vous avez entendu Lecture d'été du collectif Les Menstruels. Pour retrouver leurs émissions, rendez-vous sur l'audioblog Les Menstruels. Et pour retrouver toutes les émissions de Gymnastique sonore, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.